D'abord, on va, parce que là, il y a une grosse tempête qui s'en vient, là, 60 centimètres. Et là, il y a un papier qui a attiré notre attention. Un ancien soldat des Forces armées qui a fondé son entreprise. Ça s'appelle Plan B Solutions. Et dans le fond, c'est un peu le kit de survie pour se préparer aux catastrophes. C'est Éric Lemay, donc capitaine, retraité des Forces. Bonjour, Éric Lemay.
Bonjour, M. Dréville. En passant, je n'étais pas capitaine.
Vous n'étiez pas capitaine?
Non, j'étais un non-officier. Quand j'ai fini, j'étais adjudant.
Ah, bien, adjudant, c'est mieux que capitaine, non?
Oui, c'est mieux. Dans la perception des hommes de rang, oui, c'est mieux, bien sûr.
Bon, mais c'est parce que moi, on m'a dit que vous étiez capitaine. Mais là, adjudant, ça fait mon affaire pareil, hein?
Oui.
Bon, puis parlez-nous un petit peu de votre entreprise, puis de ce que vous offrez, puis de votre kit de survie, là, s'il vous plaît.
Ah, bien, notre ensemble de résilience qu'on offre, on y va. Qu'est-ce qu'on voit ordinairement comme kit de survie traditionnel? Il y a les kits donc que la Croix-Rouge va vendre, puis qui est en accord avec les recommandations des gouvernements. Nous, on se spécialise vers une fixation sur l'efficacité, puis vraiment être capable d'être autonome et résilient à la maison en cas de coupure de service. On est dépendant de tellement de choses aujourd'hui qu'on ne réalise pas à un certain point qu'on se retrouve dépourvu quand ces ressources-là sont épuisées.
Alors, parlez-nous concrètement. Mettons deux ou trois situations pour lesquelles vous avez une solution.
Bon, mais regardez, si on monte la crise de verglas de 20 ans, c'est sûr que ça aurait pu être très pratique. Le verglas qu'il y a eu au Nouveau-Brunswick l'année passée. Alors là, nous, qu'est-ce qu'on offre, c'est d'être capable de purifier l'eau dans n'importe quelle circonstance, ce qui fait que nos solutions, c'est impossible de manquer de purification d'eau. C'est pas possible de manquer de lumière, c'est pas possible de manquer d'options pour pouvoir charger son téléphone. Comme des différents systèmes de redondance, un petit peu comme un avion a différents systèmes de redondance au niveau de l'hydraulique, électrique et quoi que ce soit,
bon,
pour assurer d'être capable de fonctionner là, dans des conditions adverses.
Charger son téléphone, qu'est-ce que vous recommandez?
Ah, ben, on a plusieurs chargeurs manuels qui viennent avec l'ensemble qu'on est en train de préparer, des panneaux solaires portatifs. On a des unités portatives aussi qui peuvent supporter les travailleurs à la maison. Même si on n'a pas d'électricité, notre signal Internet se rend à notre connexion. Il s'agit de brancher notre modem. Tout ce qui nous permet justement de pouvoir continuer nos opérations. Puis on essaie d'éviter les génératrices traditionnelles de base. Mm-hmm. On a des solutions alternatives pour pouvoir mettre ça de côté.
Puis au niveau de la lumière?
Ah, au niveau de la lumière, c'est des petites lumières qui sont rechargeables par prise USB ou qui sont rechargeables de façon manuelle, ou qu'on puisse brancher au travers d'un panneau solaire. Alors, il y a différentes variétés de ce côté-là. La lumière, beaucoup de gens vont installer une génératrice. Pourquoi? Pour allumer deux, trois lumières. Il y a moyen de se départir de cette autre dépendance-là qui est dépendante à l'essence.
OK. Puis, votre client, mettons, type, là, c'est-tu celui qui pense que le ciel va nous tomber sur la tête et puis que la fin du monde est sur le point d'arriver, puis il décide de se préparer pour l'apocalypse ou est-ce qu'avec les changements climatiques, non, c'est pas ça?
Non, il y a une démystification. Malheureusement, oui, c'est associé à cette espèce d'image-là qui existe pour de vrai aux États-Unis, des gens qui sont galvanisés politiquement, très près du lobby des armes et puis avec un soupçon de théorie de conspiration. Ici, on parle de responsabilité en sécurité publique. La comparaison que vous venez de me faire là, c'est comme si je vous dirais que la récupération, c'est réservé à ceux qui ont des fleurs dans les cheveux et qui vivent en communauté. Alors, on n'est pas dans ce domaine-là pantoute. On est au niveau des recommandations du gouvernement, puis basé sur des faits qui sont arrivés, des interruptions majeures au cours des dernières décennies.
OK. Mais on s'entend qu'avec les changements climatiques, le fait qu'on va avoir des phénomènes catastrophes naturelles extrêmes de plus en plus, dans le fond, c'est votre entreprise puis votre kit de survie s'inscrit un petit peu là-dedans aussi. Ça s'inscrit dans le niveau d'anxiété et d'inquiétude, mettons, plus grand, plus intense qu'on a maintenant, là.
Oui, ça peut répondre à un certain besoin de ce côté-là, mais d'un autre côté, c'est des réalités que je pense qu'on a de plus en plus en évidence devant nous. Là, ceux qui renient ça, on n'est pas loin de la théorie que la Terre est plate. Alors, mais veut pas, on ne sait pas comment ça va nous frapper, avec quelle force, ça va-tu être graduel, tout. Alors, faut être flexible dans notre approche, dans nos différentes solutions qu'on a. Faut se garder de la flexibilité pour être capable de répondre sur plusieurs angles possibles, le maximum d'angles possibles de ce qui peut venir bouleverser notre quotidien.
Dans votre, je ne sais pas si on peut appeler ça le kit de survie, là, appelons ça l'appellation générale, kit de survie, il y a une place importante qui est réservée pour les aliments d'urgence.
Oui.
Ça, c'est quoi? C'est des aliments qu'on pourrait conserver, mettons, pendant des mois, sinon des années de temps, là?
Ceux qu'on offre présentement ont une espérance de vie de 25 ans plus. 25 ans étant la limite de qu'est-ce qui est légal de proposer aux États-Unis.
Mais 25 ans? Qu'est-ce qui peut se conserver 25 ans?
C'est des repas. C'est des repas déjà préparés. C'est ce processus de lyophilisation à froid. On enlève toute l'humidité, alors après ça, on le sèle dans un sac malheur et la conservation permet justement d'atteindre des niveaux élevés de conservation de ce niveau-là. Mais c'est un processus qui est quand même particulier, là, qu'on voit pas à tous les coins de rue.
Mais c'est quoi? Est-ce que c'est sec? C'est avide?
Oui. C'est complètement sec. Complètement sec. Il nous reste juste à ajouter de l'eau et une cuisson d'environ 20 minutes en moyenne pour permettre au repas complet de tout reprendre sa consistance là, pour être capable de le consommer.
Puis ça goûte quoi?
C'est bon.
Hein?
Les enfants vont en manger. Bon, la limite, là, c'est pas du Ricardo en sachet. Les enfants vont en manger. C'est le principal.
Mais donnez-moi une idée de deux, trois plats là, qu'on peut garder pendant 25 ans puis qu'on va consommer après 25 ans, là, mettons, là, c'est quoi?
J'ai du filet, contient pas de viande, d'autres différentes nouilles à assaisonnement italien, de la soupe aux patates, il y a du macaroni au fromage, dans d'autres cas, il y a d'autres différentes soupes, chili aux ananas aussi, et puis différentes variétés là, pour quand même... La nourriture, c'est le moral dans des conditions adverses. Là, pour avoir eu l'occasion d'être dans des conditions adverses, là, un bon repas chaud, là, ça peut faire toute la différence.
Bien, je comprends.
Nous autres, encore là, on fait une fixation sur vraiment les meilleurs produits qu'on a pu trouver dans cette catégorie-là. Et puis, c'est justement, on peut dire qu'on a le meilleur ensemble, le plus efficace là, qu'on peut trouver présentement.
Il y en a un qui m'écrit, là, il dit « Fais pas ton difficile, Bernard ». Ben là, c'est sûr que si tu te retrouves sous terre après un cataclysme apocalyptique, puis qu'il te reste de la bouffe en sachet là, que tu vas pouvoir consommer pendant des années de temps, bon, ben là, j'imagine que tu te plains pas là. Ah. C'est ça où tu crèves.
Ouais, non, mais c'est pas l'idée, M. Drainville. Le variant qu'il y a eu au Nouveau-Brunswick. Si les gens auraient pris leurs mesures de base pour être capables de subvenir à leurs besoins pendant 72 heures, ils n'auraient quasiment pas eu besoin d'ouvrir de centre de refuge là-bas. Pendant le verglas en 98, il y a des gens qui se présentaient dans des refuges, puis ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas de linge d'espère, ils n'ont pas le brosse à dents. Coudon, voulez-vous un livre à colorier avec ça? Il y a une responsabilité. Il faut sauter de la tête qu'il arrive une interruption. Et dans les heures qui suivent, on a quelqu'un qui va venir cogner à notre porte pour savoir si tout va bien. Alors,
il faut se sortir de ça, dites-vous. Il faut arrêter de dépendre des autres pour nous aider en situation de difficulté, puis il faut prendre les moyens nous-mêmes d'assurer nous-mêmes notre sécurité. C'est ça, dans le fond.
Ben oui, c'est une responsabilité civile. Puis dans plusieurs autres pays, ça fonctionne de même. Mais si on s'attend à ce que les institutions s'occupent de nous autres, la population en bas... Alors que non, c'est à la population en bas de prendre ses responsabilités puis d'être capable de supporter justement les premiers répondants, les agences du gouvernement pour être capable de s'occuper des plus faibles et des plus vulnérables. On est responsable à quelque part de notre sécurité.
Ah oui, non, je suis d'accord
à
avec vous.
Point, je sais pas au Québec, dépendance des gouvernements, je sais pas.
Comment répéter ça, là?
Je ne sais pas ici au Québec, j'essaie de comprendre justement l'approche. On est trop habitué d'être dépendant du gouvernement pour s'occuper de nous autres, puis pour nous faire des petits manuels de comment se comporter dans les arénas et quoi que ce soit. Mais à un certain point, à la base, si on regarde aux États-Unis, la mentalité est soyez la famille héros. Faites juste votre job, soyez juste en mesure d'être responsable, votre famille est correcte, puis après ça, vous êtes capable d'aller supporter votre communauté alentour. C'est ça notre optique.
C'est ça la philosophie de votre entreprise. Juste en terminant, là, votre kit de survie, là,
oui.
Ça coûte combien?
Environ le même prix qu'une option volant chauffant, toit ouvrant panoramique sur une voiture d'entrée de gamme. Ça va jouer à peu près dans les entours de 2 000.
2 000?
Oui.
Wow.
Un kit avec une espérance de vie de 25 ans.
Ouais.
Mettez ça dans le sous-sol chez vous, oubliez ça. Vos petits-enfants vont être rendus à l'université, votre kit va être encore bon. C'est ça l'idée.
OK, vous me dites 2 000, mais tu payes 2 000, mais tu l'amortis sur 20 ans.
Hein? Okay, j'aimerais ça pouvoir le financer sur 20 ans, mais sa durée de vie, son espérance de vie, le poids qu'on donne, puis tout, je veux dire, on ne commencera pas à s'arrêter de vivre en parallèle. Non, nous autres, notre optique, c'est on continue à faire nos affaires, mais s'il arrive de quoi, bon, ben, vous avez de quoi de solide sur lequel vous pouvez vous fier pour pouvoir être résilient, puis pouvoir être capable de rester chez vous et de fonctionner.
Ça s'appelle Plan B Solution, hein?
Oui, planbsolution.co.
OK. Adjudant Éric Lemay, retraité des forces. On voit que vous avez encore quand même la mentalité du gars qui a été dans les forces. Là. Tu peux sortir le gars des forces, mais tu ne sors pas les forces du gars, là, je pense.
On continue notre service à la population.
Merci, M. Lemay.
Merci, M. Drainville.
Bon, un autre là, qui a quand même un lien avec les forces. Hein. Il est colonel honoraire, si je ne me trompe pas, Luc. Là. En tout cas, il nous dit ça des fois. Je n'ai jamais vérifié ça moi-même. Là. Mais il est tellement sérieux quand il en parle, on a intérêt à le croire. Hein. Il s'en vient, notre Luc, là. Suite après la pause.